Un excellent début de week-end, tout le monde. Merci de passer ces moments-là avec nous, amateurs de sport. Nous accueillons immédiatement Philippe Quentin. Bien le bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Ah, décevante fin de match pour le Canadien, mais on pourrait dire aussi décevant début de match, en tout cas. C'est pas le résultat qu'on souhaitait, hein?
Non, surtout décevant début de match. On a vu le Canadien, Mario, quand l'équipe a obtenu du succès. C'est vraiment en début de rencontre, quand le groupe a réussi à instaurer son tempo. Souviens-toi du match à Los Angeles contre les Kings, le premier des trois matchs. En Californie, en première période, le Canadien était partout sur la rondelle. Et ça, non seulement, ça, c'est bon parce que généralement, ça va conduire à un but ou à tout le moins, on va être capable de mettre de la pression, mais surtout, c'est que ça envoie un message. Ça envoie un message à l'autre équipe. « Hey, on est ici pour jouer ce soir. » Et puis, la confiance d'une équipe s'améliore comme ça. Puis cette année, si on regarde tous les matchs du Canadien, c'est assez impressionnant de voir le nombre de rencontres où ils ont gagné et où ils ont marqué rapidement le premier but du match. Mm-hmm. On a vu Domi réussir ça à quelques reprises. Et ça, pour moi, c'est une qualité du Canadien. S'imposer rapidement par sa vitesse, donner le tempo au match, envoyer un message à l'adversaire. Alors, il me semble qu'avec 12 rencontres à jouer au calendrier, c'est pas compliqué. C'est une de tes marques de commerce. C'est comme ça que tu as des succès. Du succès, tu embrayes dans cette direction-là. Et hier, qu'est-ce qu'on a vu? Ça a été complètement à l'opposé. Le Canadien n'était pas là en première période. C'est pas pour rien que Claude Julien était vraiment furieux. Tu as sûrement vu les images comme moi après le match. Il était pas content.
Vraiment. Et en première période, il y a un gros plan sur Claude Julien. C'est après une séquence de Max Domi qui venait de commettre un revirement à l'entrée de zone en essayant de se faire une passe d'une main pour lui-même par la bande. Ça n'a pas coûté de but, mais tu voyais que déjà, il sentait que son équipe jouait pas de la façon dont il le souhaitait. Et c'est vrai, tu pointes en direction des débuts de match. C'est vrai que c'est devenu une signature du Canadien, mais là, tu affrontes des équipes clairement plus... En tout cas, les Islanders, clairement plus affamés. Je sais pas s'ils étaient survoltés par le fait de jouer dans l'ancien domicile permanent des Islanders, mais il y avait le public était là. Mais ça à glace, c'est ça à glace que ça se passe. On a beau mettre ça. Puis les Islanders étaient pas mal plus près, pas mal plus affamés. Écoute, puis même si le chef des lancers peut donner de belles figures aux Canadiens pour les deux dernières périodes, moi, je considère que le Canadien courait après la rondelle toute la soirée dans sa zone.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça n'a pas été un bon match. Puis c'est surtout que c'est un effort qui est décevant à ce moment-ci de la saison, alors que tout le monde sait qu'il ne faut pas que tu échappes des points. Et là, ça fait encore plus mal parce que tu sais, il se produit deux choses hier. D'abord, Carey Price est extraordinaire. Alors, quand Carey Price est extraordinaire, tu es supposé gagner au moins un point, mériter au moins un point, sinon deux. Il n'a pas été exceptionnel à Anaheim. Le Canadien a perdu. Tu te dis, écoute, c'est une mauvaise soirée pour tout le monde. Il a été un peu laissé à son sort, mais lui-même, ça n'a pas été son meilleur match. On oublie ça, puis on efface ça, puis on regarde en avant. Mais là, hier, ce qui est d'autant plus choquant et frustrant, c'est que Price, justement, joue un grand match. Alors, quand il joue comme ça, que le Canadien soit pas capable de récolter un point, ça, c'est vraiment extrêmement décevant. Et là, c'est non seulement ça, c'est qu'il reste, avant cette rencontre-là, il restait 6 matchs à l'étranger pour le Canadien. Il n'en reste plus que 5. Et je pense que dans les 6 matchs, là, Mario, c'était un des matchs qui était clairement à portée de l'équipe. Parce que tu regardes, c'est qui les prochains adversaires sur la route. Alors, à Philadelphie, ça sera pas facile. On sait que les Flyers soufflent dans le cou du Canadien. En Caroline, à Columbus, à Winnipeg, puis à Washington. Alors, les matchs sur la route, il va falloir un meilleur début de match.
Il va falloir en gagner un ou deux. Puis des meilleurs débuts de match, même à domicile, parce que c'était pas convaincant non plus contre Détroit mardi. On espérait qu'au moins le 2 points et le regroupement autour de la marque établi par Carey allait permettre à l'équipe d'amorcer le match suivant avec confiance. On n'a pas vu ça hier à Long Island. Et là, écoute, il reste seulement 11 rencontres aux Canadiens. Et là, on va surveiller du coin de l'œil. Ça commence bientôt. Même, c'est peut-être commencé au moment où l'on se parle. Je vais surveiller ça. Caroline Columbus, juste de même, là, pas pour développer bien longtemps, mais qui souhaites-tu voir gagner ce soir pour aider le Canadien? Caroline est à 83 points avec 69 parties jouées. Columbus à 81 points avec 70 parties jouées.
Moi, bon, je vais répondre deux choses à ça. Première chose, pour aider le Canadien, souhaitons que ce soit pas un match de 3 points. C'est-à-dire qu'on n'aille pas en prolongation, parce que ça, c'est le pire des scénarios. Alors, il faudrait que quelqu'un gagne dans le temps régulier. Vraiment. Ça, tout de suite, en partant, je pense que c'est la considération numéro un. Considération numéro deux, je sais que Caroline joue très bien, mais moi, je pense que Columbus est dû pour une lancée. Ils ont vraiment fait des acquisitions importantes à la date limite des transactions. On sent que le Jello a pas pris encore là, dans cette équipe-là. Mais il me semble qu'avec tout le talent que les Blue Jackets ont aujourd'hui, ils devraient mettre les choses en place. Puis terminer la saison en force. Alors, moi, je m'attends peut-être à ce que les Blue Jackets réussissent à se détacher un peu des Hurricanes et du Canadien. Alors, à ce moment-là, je pense que l'adversaire qui est peut-être plus prenable pour le Canadien, étonnamment, moi, en tout cas, c'est mon analyse, ce sont les Hurricanes qui, j'ai l'impression, ont connu une, pas j'ai l'impression, mais ils ont connu une super séquence. Est-ce qu'ils sont capables de maintenir ce rythme-là jusqu'au bout où ils sont dus pour un léger fléchissement, alors que les Blue Jackets, c'est complètement le contraire. Alors, moi, je m'attends à ce que les Blue Jackets terminent la saison en force. Beaucoup de victoires. Je pense que ça va être la meilleure des trois équipes. Alors, je pense que l'équipe à aller chercher pour le Canadien, c'est les Hurricanes. Donc, ceci répond à ta question. Oui. Je pense que c'est mieux pour le Canadien que les Blue Jackets amorcent sur série victoires.
Je pense que tu n'es pas le seul à l'entrevoir ainsi. Voyons la suite. Le match est en cours et ça vient tout juste de commencer. Donc, il n'y a pas de but de marquer encore. On va enchaîner avec le dossier des Alouettes et de la vente possible. Et juste avant, un nouvel élément d'information. Il y en a quelques-uns qui se sont ajoutés là, pendant la semaine. Notamment, entre autres, à RDS, on évoque la possibilité d'une mise en tutelle de l'équipe par la Ligue. J'ai été quand même étonné qu'on songe à des mesures aussi quand même importantes. Et là, il y a une rumeur que moi, je qualifie de farfelue, on verra, là, mais qui enverrait Kevin Sweet comme grand patron des Eskimos d'Edmonton, là où il a eu 4 victoires à sa dernière saison à la barre de l'équipe. Il est 8-28 comme déjà avec les Alouettes. Je sais pas si il y a une équipe qui veut le nommer président. Mais ce qui m'étonne encore plus, c'est que j'ai appris qu'il séjourne régulièrement à Edmonton où sa famille est demeurée. Alors, on a remplacé un DG qui y allait avec sa télécommande puis qui regardait les films le lendemain matin par un autre DG qui est pas dans le marché. Tu sais quand tu veux pas avoir de succès, voyons donc, nomme pas un gars de Saint-Léonard, voyons donc la gaffe, toi.
Non.
Écoute,
puis il a seulement gagné une Coupe Grey comme entraîneur-chef. C'est pas beaucoup, une Coupe Grey, puis ben, on ironise, bien sûr.
Je sais bien, mais
c'est choquant, c'est parce que c'est choquant, exactement.
Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu cette semaine, puis de la prise de position?
Écoute, c'est certainement des nouvelles encourageantes. Je pense que tu as deux organisations proches de nous qui ont besoin d'un nouveau propriétaire. Clairement, les Alouettes, clairement les Sénateurs d'Ottawa, parce qu'on en parle pas, on en parle moins des Sénateurs, mais tu sais, c'est important. Permets-moi juste ce petit aparté-là. Tu sais, c'est important qu'Ottawa ait une concession en santé, qu'Ottawa soit capable de réussir dans la Ligue nationale. C'est important parce que c'est une des équipes canadiennes, puis y en a pas tant que ça des équipes canadiennes. On souhaiterait qu'il y en ait, souhaiterait tous, je pense, qu'il y en ait une huitième, mais pour un jour qu'il y en ait une huitième à Québec, il faudrait que celle qui est établie dans un petit marché...
Il faudrait que ça fonctionne,
parce que sans ça, ça envoie un très mauvais signal à la Ligue nationale. Et ça, pour moi, c'est vraiment, je souhaite qu'en tout cas, qu'Ottawa, que d'une façon ou de l'autre, ils réussissent à régler leurs problèmes. Je trouve ça tellement malheureux, ce qui se passe là-bas, parce qu'on sait que les gens d'Ottawa appuient leur équipe. Il y a eu toutes sortes de facteurs qui ont fait en sorte que ça a été plus difficile là, au cours des deux dernières saisons, puis le produit qu'on leur propose, ça rappelle un peu la situation des expos à l'époque, là, dans le temps des ventes de feu. Ça fait que c'est vraiment pas évident pour les fans. Alors donc, souhaitons pour les Sénateurs, puis pour les Alouettes, ben, c'est clair que là, ça fonctionne plus. Cette équipe-là a beau changer ses couleurs, a beau faire un beau party dans la semaine du Super Bowl pour présenter son nouvel uniforme et tout. Bravo, je trouve que les dirigeants marketing, les dirigeants au niveau de l'administration ont du mérite. Ils gardent la pédale au plancher, puis essaient de faire des choses, puis ils continuent de se battre, puis ils lancent des projets. Puis moi, j'admire ça parce que ça doit pas être facile. Là. Imagine, là, tu te lèves le matin, là, tu t'en vas travailler pour les Alouettes. Là. Tu sais que l'équipe s'en va. Ben, tu le sais peut-être pas, peut-être que tu veux pas le réaliser, mais que la perception du public, c'est que l'équipe s'en va nulle part, que le directeur général est pas capable vraiment de faire le travail. Les corps arrière, c'est une situation qui est toujours pas réglée. Et tu te demandes où s'en va cette organisation-là. Alors, quand tu continues de te battre, c'est toujours bon signe. Mais oui, un nouveau propriétaire amènerait un souffle nouveau. Il y a absolument aucun doute là-dessus. Maintenant, qui ce serait? Il y a toutes sortes de noms qui ont été évoqués au cours des derniers jours, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que si tous ces noms-là sont véritablement intéressés, ou si ces gens-là, que ce soit le groupe d'Éric Lapointe, le groupe de Stephen Bronfman, même s'il y en a d'autres, est-ce qu'il peut avoir un réel intérêt de tous ces gens-là pour les Alouettes, assez pour qu'on aille voir, pour qu'on cogne à la porte, puis qu'on dise, écoute, là, ça ressemble à quoi votre organisation? Souhaitons-le.
Et qu'on mette de l'argent, et qu'on ait beaucoup d'argent pour soutenir la démarche, parce que, tu sais, à 20-25 millions de budget d'opération, là, avant d'avoir 20-25 millions de revenus par année, il faut que tu anticipes peut-être une couple d'années où tu les auras pas. Alors,
C'est pour ça que les gens demandent combien ça vaut, les Alouettes. C'est sincèrement, là, qui donnerait... Est-ce que tu paierais un montant pour les Alouettes? Je pense pas. Moi, je pense que ce qu'on dit parfois, c'est que les Alouettes ont fait des pertes au cours des dernières saisons. Peut-être que dans la transaction, tu peux assumer un certain nombre des pertes, mais c'est une équipe qui a pas de stade qui est locataire partout, qui a une liste d'abonnés de billets de saison qui diminue tout le temps d'année en année. C'est pas une équipe qui a des actifs. Puis tu sais, il y a un autre facteur, Mario, qui est tellement important, c'est qu'aujourd'hui, quand des gens d'affaires achètent une concession sportive, quel est un de leurs incitatifs? C'est l'appréciation potentielle de la valeur de la concession. Jeff Molson, j'achète à 600 millions de Canadiens. 10 ans après, ça vaut 1,2 milliard avec, bon, évidemment, tout ce qu'il a pu ajouter autour. Et c'est Joey Saputo achète l'Impact, la concession, 40 millions de dollars en 2011 pour débuter en 2012. Aujourd'hui, c'est une concession qui doit valoir 160 millions de dollars. Alors, c'est ça l'idée quand tu achètes, quand tu investis, c'est l'appréciation de la franchise. Maintenant, l'équipe des Alouettes, tu sais, regardons ça de façon franche, là. C'est quoi le potentiel d'appréciation de la franchise dans une ligue qui est limitée au Canada, dans une ligue qui aura maintenant deux nouvelles concurrentes, c'est-à-dire une qui est déjà en opération avec l'Alliance of American Football et la XFL qui va commencer l'an prochain. Donc, on part de nouvelles ligues aux États-Unis, des ligues dans le cas de la AFL. C'est il y a déjà une entente avec la NFL. Tu sais, les cartes sont pas de ton côté.
Philippe. Ben, comme c'est un geste civique. C'est un geste là, de dire, moi, j'aime ma ville. Puis, ou un trip là, de un groupe comme Éric Lapointe, c'est-à-dire de minimiser les pertes. Puis peut-être de faire un petit profit. Il y a moyen, je pense, d'opérer ça puis de ne pas en perdre. Peut-être. Mais il y a toute une job à faire. Mais si c'est la relance, puis qu'à un moment donné, là, dans quelques années d'ici, tu as une identification, une connexion, puis que l'agrandissement, le temps qu'ils vont jouer à Percival Molson, que tu es rempli, tu es tes sièges, peut-être qu'il y a moyen de faire.
Peut-être.
C'est pas bien, mais honnêtement, tu fais pas ça pour faire de l'argent. Là.
Non, tu fais ça parce que tu dis, écoute, c'est une organisation qui a ses racines dans l'histoire de Montréal. Depuis plus de 50 ans. C'est quand même pas rien. Là. C'est Léo Dandurand, un des grands. À l'époque, Léo Dandurand disait que c'était un sportsman. Hein. C'est comme ça qu'on appelait les promoteurs sportifs à l'époque. Oui. Léo Dandurand, qui a été directeur général du Canadien, qui a été entraîneur du Canadien dans les années 30, la fin des années 20, début des années 30, propriétaire de l'équipe, qui a eu un impact majeur dans les courses de chevaux à Montréal à l'époque où c'était super populaire. Tu sais, je parle de lui là, parce qu'il y a des racines avec les Alouettes. Il y a un historique. C'est pour ça qu'à quelque part, que ça vaut quelque chose.
Et ça nous fait quelque chose aussi de voir ça possiblement mourir pour une autre fois parce qu'on sait c'est quoi le perdre. Ce club-là, on l'a déjà perdu.
Exactement. Puis c'est pas bon perdre une équipe, même si la Ligue est pas florissante. Elle est là encore.
Philippe, c'est tout le temps qu'on a. Bonne fin de semaine.
Salut.
À lundi. Bye-bye. On revient dans quelques instants avec notre ami Danny Dubé.